Vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité.
Faut-il dialoguer avec Poutine alors que la guerre en Ukraine se poursuit ? On analyse tout de suite les différentes positions sur la question.
L'homosexualité est-elle toujours un tabou dans les vestiaires de foot ? Ou est-ce que les mentalités évoluent ? Réponse dans un instant.
Mais avant, c'est Codeco cet après-midi. On voit quelles perspectives nous attendent dans la gestion de la pandémie.
Nous sommes le vendredi 20 mai. Je m'appelle Pierre Fagnard.
Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
La Belgique s'apprête à relâcher ses mesures sanitaires contre le Covid-19. Le comité de concertation se réunit tout à l'heure. Il devrait décider de la fin du masque dans les transports en commun.
Les autres pays européens ont eux aussi relâché leurs mesures sanitaires. Pourtant, la carte du Centre européen de contrôle des maladies, la carte qui suit la situation du Covid-19, est rouge. Elle est même rouge foncé pour l'Allemagne et pour le Portugal. Sandra Durieux, journaliste santé, a discuté avec un épidémiologiste de ce centre, l'ICDC. On lui a demandé s'il faut s'inquiéter.
Oui et non, c'est-à-dire inquiet, non, parce que voilà, on est dans une situation où le virus circule énormément, ça c'est une réalité, mais l'important c'est que le nombre de cas n'est pour l'instant pas associé à une hausse des hospitalisations et des entrées aux soins intensifs. On peut rester serein à ce niveau-là, mais il faut garder en tête que le virus est toujours là, est toujours bien là, et continue de contaminer les gens, que les personnes fragiles, immunodéprimées ou âgées sont toujours à risque potentiel de faire des formes graves. Ça doit susciter une certaine vigilance.
Comment ça s'est passé dans des pays comme au Danemark, qui ont déjà levé leurs restrictions il y a un certain temps et où le virus continue de circuler ?
Alors, le Danemark, quand il a levé l'ensemble de ses mesures vers le mois de février, ça s'est suivi par une remontée des cas. Ça, c'est assez logique dans la manière dont une épidémie fonctionne. Donc, on peut s'attendre quand même à une remontée aussi des cas chez nous. Mais ce qu'on a très vite vu au Danemark, c'est que, de nouveau, le nombre de cas n'a pas été associé à une hausse importante du nombre d'hospitalisations et de soins intensifs. C'était plutôt rassurant. Mais ce que nous disent aussi les spécialistes de l'ICDC, c'est que, attention, on ne peut pas toujours comparer les pays entre eux. Il y a des pays où les gens vont plus suivre les mesures que d'autres, vont plus personnellement se mettre en retrait quand ils sont malades ou ont des symptômes que dans d'autres. La situation d'un pays n'est pas forcément adaptable à un autre pays.
Est-ce que l'arrivée de nouveaux variants, des petits frères du variant Omicron, peut inquiéter ?
Alors, les variants donc BA4 et BA5 viennent d'être classés comme préoccupants par le CDC. Ça veut dire qu'il faut être vigilant par rapport à ces variants. Ces variants, de nouveau, permettent au virus de se transmettre encore plus facilement d'une personne à l'autre. Et de nouveau, quand il y a une augmentation des contaminations, on peut s'attendre, de par l'effet de masse de nombre, à une hausse des hospitalisations et des cas sévères. C'est pour ça que ces variants étaient jugés comme préoccupants. Alors, pour l'instant, c'est le Portugal qui est le plus touché par le variant BA5. Faut pas se faire d'illusions, faut pas se dire on va pas aller au Portugal pour ne pas avoir ce variant. Ce variant va circuler aussi en Europe, comme ça a été le cas pour l'ensemble des variants. Il faut tenir ça à l'œil, tester, les séquencer, voir où on en est dans les différents pays et voir si c'est couplé ou pas à une hausse des hospitalisations. C'est cet indicateur-là qui est le plus important dans la gestion de l'épidémie.
Les experts sont-ils sereins pour les prochaines semaines, pour l'été ?
Ils sont vigilants, on va dire. Je pense que par rapport au nombre de contaminations qu'on a recensées en Europe et du taux de vaccination important dans un grand nombre de pays européens, on peut se dire que la population européenne est plus ou moins immunisée contre les formes du moins sévères du virus. Mais on doit toujours tenir à l'œil l'idée qu'un variant peut devenir aussi plus dangereux, plus virulent, et que dans ces cas-là, ben oui, il faut se tenir prêt à prendre des mesures ou à vacciner la population avec peut-être des nouveaux vaccins qui vont arriver dans les mois à venir.
Faut-il dialoguer avec le président russe Vladimir Poutine dans le contexte de la guerre en Ukraine ?
Maintenir le canal de communication permet-il d'apaiser le conflit ? Ou est-ce que cela encourage des concessions sur le dos de l'Ukraine pour restaurer la paix ou reprendre le business avec la Russie ? La question divise. Les journalistes du service Monde ont fait un tour des différentes positions et des arguments. Philippe Debouc commence par nous résumer la position de la Belgique.
Officiellement, on n'a pas vraiment d'indication précise car le gouvernement ne parle pas ouvertement de ce qu'il se passe effectivement en coulisses, mais on sait de sources diplomatiques que la Belgique privilégie surtout et d'abord la voie européenne. Pour la Belgique, qui a une longue tradition de négociations et de dialogues multilatéraux, il est important de garder un dialogue. Mais dans ce cas présent, il faut savoir si les conditions d'un dialogue sont réunies. Apparemment, elles ne le sont pas. On peut appeler Poutine tant qu'on veut. Si Poutine n'est pas prêt à dialoguer, il n'y a rien qui va se passer. Donc les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue constructif. C'est quand même un conflit dont on ne connaît pas l'issue. Et ce que l'un gagne, puisque c'est une invasion d'un pays par un autre, l'autre le perd. Donc les conditions d'un dialogue ou d'une négociation ne sont pour l'instant toujours pas réunies.
L'Europe est divisée sur la question de parler ou non à Vladimir Poutine aujourd'hui.
Alors il y a 27 États membres et c'est clair que c'est très difficile d'avoir un point de vue cohérent. Il faut naviguer. Donc d'un côté, il y a des grands pays comme l'Allemagne avec Olaf Scholz, il y a Mario Draghi en Italie, il y a Emmanuel Macron en France, qui font tout leur possible pour qu'on n'humilie pas Vladimir Poutine, parce que sinon ça pourrait encore être pire. Par contre, les anciens pays de l'Est, qui sont toujours des pays de l'Est, mais qui avant n'étaient pas européens, eux savent très bien à qui ils ont affaire avec les Russes en face, puisqu'ils ont été membres de l'Union soviétique, l'URSS. Eux, ils savent comment les Russes fonctionnent. Ils ne se sont pas démocratisés, ça n'a pas fort changé. Donc les points de vue européens sont très difficiles à concilier. Alors officiellement, il y a la Commission qui essaye de tenir compte de tous ces avis, qui essaye d'avancer, et de l'autre côté, il y a Charles Michel et le Conseil qui essayent d'avancer aussi.
Quel est le risque de rompre complètement la discussion ?
S'il n'y a plus de ligne ouverte entre Poutine et le reste du monde, il y a un risque d'isolement. Alors on voit déjà que Vladimir Poutine est isolé. Évidemment, si tout le monde essaye de l'appeler et qu'il est retranché dans un bunker, il se croira, lui, pas vraiment isolé, puisque tout le monde essaye de l'appeler. Toujours est-il qu'il est le seul, plus ou moins, à défendre son point de vue. Alors, il a quand même deux alliés importants dans le monde, c'est la Chine et c'est la Turquie.
Et justement, quel rôle peuvent jouer ces pays, donc la Chine et la Turquie, qui sont plus neutres dans le conflit? Est-ce qu'ils peuvent servir d'intermédiaires et de pacificateurs?
Je ne sais pas s'ils sont si neutres que ça, mais la Chine a une tradition très spéciale au niveau des affaires étrangères, ne s'immisce pas dans les affaires des autres. Par contre, beaucoup de business, notamment avec les Russes. La Chine, qui au tout début du conflit prenait ouvertement fait des causes pour la Russie, a un peu revu sa ligne depuis quelques semaines et essaie d'être un peu plus discrète et ne plus prendre position. La Turquie, par contre, la Turquie qui est dans l'OTAN mais pas dans l'Union européenne, qui essaie de jouer un médiateur depuis le début, qui ménage les Russes d'un côté, qui ménagent les Ukrainiens de l'autre côté, les Européens, essayent toujours d'amener les deux belligérants autour de la table avec des observateurs. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est un peu au point mort, parce que les conditions d'un dialogue n'ont pas l'air d'être réunies tant que la guerre est en cours. La guerre est toujours en cours, on n'est pas à la fin d'un conflit. Quand on voit les dernières nouvelles, on sent très bien que des deux côtés, il n'y a pas de volonté d'apaisement. Les Ukrainiens n'ont plus envie d'arriver à un dialogue, puisque eux, ils espèrent quelque part bouter les Russes hors de leurs frontières.
Grand angle. Il y a quelques jours, Jake Daniels, footballeur anglais de 17 ans, faisait son coming out, événement rare dans le monde du sport, presque inédit pour un footballeur professionnel.
Quelques jours plus tôt, un milieu de terrain du PSG, Idrissa Gueye, avait invoqué des raisons personnelles pour ne pas participer à un match, pour ne pas porter un maillot orné des couleurs de l'arc-en-ciel. C'était une initiative de la Fédération française de football en soutien aux communautés LGBTQIA+. Quelques jours après la journée mondiale contre l'homophobie, c'était l'occasion de se poser la question de l'homosexualité dans les vestiaires de foot. Est-ce toujours un tabou ou est-ce que les mentalités évoluent? Martin Grimbergs est journaliste sportif, il a enquêté sur la question. On lui a demandé de venir nous raconter ce qu'il avait appris. Bonjour Martin.
Bonjour Pierre.
Est-ce que le milieu du football est prêt à parler d'homosexualité, est prêt à parler d'homophobie?
Visiblement, en tout cas, le milieu du football croit qu'il est prêt à en parler, vu que j'ai l'impression qu'en réalisant ce sujet, en parlant avec un certain nombre de joueurs, pas tous évidemment, et c'est difficile toujours de faire des généralités, mais en parlant avec les joueurs que j'ai eu en ligne, et ils sont évidemment pas tous cités dans le papier, la majorité me disent, on a l'impression que l'homophobie, elle est là, elle est présente, mais elle est pas tant dans le vestiaire, elle est plus dans le pourtour, sur les réseaux sociaux, dans le stade, dans tout ce qui tourne autour et tout ce qui gravite autour du foot, et donc en fait dans la société, dans sa globalité. Mais un des arguments qui est revenu, et que j'avais parfois du mal à entendre, mais qui avait l'air de résonner à leurs oreilles, c'était de se dire, nous dans un vestiaire, on a une mixité. On a cette culture de l'échange, peut-être évidemment moins en termes d'homosexualité, parce que ça reste un énorme tabou. Mais en tout cas, ils disaient, nous, en tant que joueurs de foot, on s'écoute, on s'entend, on partage des trucs. Et ça, c'est ce que comme dit notamment Thomas Meunier, je pense pas que dans le vestiaire de Dortmund aujourd'hui, s'il y a un tel qui fait son coming out, on va lui fermer la porte au nez. Par contre, je pense que sur les réseaux sociaux, ça va avoir un impact et je suis pas sûr que eux sont prêts à l'assumer.
Ça veut dire que l'image d'un vestiaire de foot très masculin, très viriliste comme ça, c'est une fausse image ou c'est une image qui peut coller aux équipes plus jeunes, pas forcément une fois qu'on est passé professionnel.
C'est une possibilité et je parlais avec Wissem Belgacem qu'on interview dans le journal.
Wissem Belgacem qui est un ancien joueur qui a fait son coming out.
Tout à fait, un ancien joueur français qui a arrêté sa carrière à 20 ans alors qu'il était international tunisien, c'était un franco-tunisien, il avait disputé une CAN avec les U17, enfin il avait vraiment un gros potentiel et il a plus supporté de vivre dans ce milieu, il a essayé de s'hétérosexualiser comme il le dit lui-même jusqu'au moment où il s'est dit en fait c'est plus possible pour moi. Et en parlant avec lui, il me dit, pour rebondir sur la polémique Idrissa Gueye, ce joueur sénégalais qui a refusé de porter le maillot arc-en-ciel dans le cadre de la journée en soutien aux droits LGBTQ, il me disait, j'en veux pas au PSG de ne pas sanctionner Idrissa, j'en veux au PSG de ne pas éduquer ses joueurs, j'en veux au PSG et au club de manière générale de ne pas leur apprendre dès le plus jeune âge c'est quoi l'homophobie, comment on peut travailler contre, comment on peut accepter la liberté sexuelle en fait dans le foot, parce que c'est de ça qu'on parle.
Tous les témoignages que vous avez pu recueillir, ils vont tous dans le même sens. Vous avez parlé de celui de Thomas Meunier qui estime que dans son vestiaire, a priori, les joueurs sont prêts. Dans le papier, il y a Damien Marc, un joueur de l'Union Saint-Gilloise, qui est aussi interrogé, qui lui dit « Je pense qu'il y a une immense majorité des joueurs de football qui sont pas prêts à avoir un homosexuel comme coéquipier. »
Non, bien sûr, il y a des échos hyper variés. C'est ça qui est intéressant de se rendre compte que, en fonction de sans doute de l'âge qu'on a, du vestiaire qu'on fréquente, on a évidemment pas tous la même lecture des événements. Et je pense que les deux avis s'entendent et font émerger une vérité, celle qui en a pas en fait. C'est que c'est un vestiaire n'est pas l'autre. Il y a sans doute des vestiaires plus ouverts que l'autre. Et Damien Marc ne parle pas de son vestiaire à lui parce qu'il disait par ailleurs, je pense qu'à l'Union, on est plutôt assez open sur la question. Mais oui, mais en avant une réalité qui est de se dire que aujourd'hui, il y a eu Jack Daniels qui a fait son coming out il y a deux jours, qui a 17 ans. Mais en Belgique, on n'a pas de footballeurs belges qui ont fait leur coming out. Ça n'existe pas. Donc on peut difficilement dire oui, on est prêt. À partir du moment où personne ne le fait, c'est qu'en fait concrètement, on n'est pas prêt.
Vous avez aussi recueilli des témoignages de joueurs qui manifestement ont un blocage, un problème avec l'homosexualité d'éventuels coéquipiers.
Alors c'est toujours beaucoup plus difficile d'accepter de faire parler des gens, même de manière anonyme, sur des sujets qui font pas écho chez eux. Je me suis pris pas mal de refus. J'ai eu des agents ou des chargés de com, comme on dit, qui m'ont dit non, il fait une pause média jusque début juillet parce que là on arrive un peu en fin de saison. Mais par contre, il est avec des émojis +++. Il soutient des minorités à fond, mais il s'exprimera pas sur le sujet. Ça, j'ai eu quelques réponses d'agents assez rigolotes là-dessus. Surtout que c'était pas des joueurs que j'avais choisis au hasard. C'est des joueurs qui, pour des raisons ou d'autres, je vais pas citer de nom, mais c'était manifesté dans un passé plus ou moins récent pour ne pas avoir montré une ouverture béante à l'homosexualité, à la liberté sexuelle dans le football. Donc il y a eu ces cas-là. Il y a aussi des joueurs qui ont accepté de parler. Il y en a un que je cite de manière anonyme dans le papier, qui au début parlait tout à fait librement, qui s'est rendu compte à la relecture du papier que c'était peut-être pas les bons termes qu'il avait choisis. Et donc il a dit, ça m'intéresse que mon témoignage soit là, parce que je pense que c'est une partie de la vérité aussi. C'est une partie d'un témoignage qui existe, mais j'ai pas envie d'être cité nommément et j'ai pas envie de porter à moi tout seul cette charge-là. Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Et ce papier n'avait pas pour objet de dénoncer, il avait objet de mettre le doigt sur une réalité.
Vous avez cité le témoignage de Jack Daniels. C'est ce qui manque au monde du football, des icônes qui feraient leur coming out et donc qui pourraient porter cette publicité auprès du grand public.
C'est ce qui manquait, en tout cas, à Wissem Belgacem. Il l'explique assez bien dans l'interview. Lui, il dit, moi, ce qui m'a empêché d'être joueur professionnel et de pouvoir en tout cas tenter ma chance comme tel, c'est d'avoir eu un référent, c'est d'avoir eu une égérie, c'est d'avoir eu un footballeur que j'idolâtrais, qui était ouvertement gay. Le seul qui dit avoir connu, c'est Fashanu, ce footballeur anglais qui avait fait son coming out en 1990, qui a fini par se pendre en 1998, retrouvé mort chez lui, après une campagne homophobe crasse pendant 8 ans, qui avait abouti à cette situation horrible. Et donc il dit, quand votre seule référence est ça, ça vous encourage pas à franchir le cap.
Par rapport à des campagnes comme celle qui avait été menée par la Ligue française de football, les joueurs, ils se positionnent par rapport à ça, ils ont l'impression que ça peut être utile.
Il y a des joueurs dans le passé déjà qui se sont positionnés contre, en refusant par exemple de porter le brassard de capitaine aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Il y a des joueurs qui se sont positionnés contre Idrissa Gueye samedi dernier en France. Et puis il y a les joueurs qui le font, et puis il y a les joueurs qui le font mais qui disent c'est un coup de com. C'est encore une fois ce que pointe Wissem Belgacem dans l'interview. Il dit, c'est bien gentil de te donner bonne conscience en faisant une fois par an des journées comme ça, mais à un moment il faut prendre le problème à bras le corps. Et ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Il dit, comment ça se fait que des joueurs qui disent que leur vestiaire accepterait demain des joueurs homosexuels, comment ça se fait qu'ils ne sont pas prêt à porter le débat plus haut? Comment ça se fait qu'ils acceptent de mettre un genou au sol quasiment spontanément pour le mouvement Black Lives Matter? C'est encore une fois le phrasé de Belgacem que je cite ici, mais et qui ne sont pas prêts à, de leur propre chef, mener ce combat, mener cette lutte qui les concerne au premier chef en tant que footballeur et en tant que porte-voix surtout.
En forme de conclusion, c'est un sujet sur lequel ça a été compliqué de travailler.
Pas tant que ça. Moi, je travaillais dessus depuis quelques semaines. J'étais aidé par l'actualité ici. Par exemple, quand j'ai contacté Thomas Meunier, c'était cette semaine. Il y a des joueurs que j'ai eu plus avant. Je pense que c'est un sujet où on a envie de se positionner parce qu'on se rend compte qu'il y a un malaise. Lui, il avait partagé le vestiaire d'Idrissa Gueye, donc c'était particulièrement intéressant de l'entendre à ce sujet. D'ailleurs, ce qu'il dit est assez intéressant parce qu'en même temps, il n'a pas envie de descendre son propre coéquipier parce parce qu'il le connaît, parce qu'il sait comment il est, et en même temps il dit le problème avec ce genre de réaction, c'est que ça ferme définitivement la porte, ou en tout cas temporairement la porte à cette liberté sexuelle qu'on a envie nous de faire valoir. Donc ça a été difficile, oui et non, parce que je pense que les joueurs qui en parlent ouvertement et qui en parlent bien dans le sujet, il y a des joueurs qui trouvent des mots justes pour le définir, c'est des joueurs qui sont forcément très open d'en parler, parce que eux n'ont pas de problème avec ça. Ce qui est difficile, c'est de faire parler ceux qui continueront de mettre des bâtons dans les roues ou des obstacles à une situation qui pourrait devenir plus pérenne et plus agréable pour les premiers concernés.
Merci beaucoup Martin.
Avec plaisir Pierre.
Bouche à oreille. Chaque semaine, une personnalité se livre dans les racines élémentaires. Cette fois, c'est le peintre David Hockney qui se raconte.
Rencontrer David Hockney aujourd'hui, c'est comme rencontrer Picasso. Nicolas Crous, Jean-Marie Winans et Pierre-Yves Tiempon sont partis en Normandie, chez l'artiste. Nicolas nous parle d'un moment unique, suspendu, à lire, même si vous n'y connaissez rien en peinture.
Soit ou non un amateur de peinture, d'art plastique, c'est un véritable monument. Hockney, c'est 60 ans de l'histoire de l'art d'aujourd'hui, contemporaine. Et c'est un homme qui parvient à marier la recherche, parce que c'est quelqu'un qui a touché à des genres très différents, et qui reste accessible à un large public. On l'a vu d'ailleurs récemment avec la grande exposition qui est passée par Beaux-Arts il y a quelques mois, et qui était un très grand succès. C'est un monstre vivant, tel que le fut Picasso il y a 50 ans, à la fin de sa vie.
Vous l'avez rencontré chez lui, en Normandie, ça s'est passé. C'est comment, quand on rencontre un tel monstre de sa discipline, parfois on peut se dire que c'est pas forcément facile.
On est un petit peu sur un nuage, nous sommes partis à trois du journal Le Soir. Il y avait Jean-Marie Winans, il y avait notre photographe Pierre-Yves Tiempon, et il y avait moi. Des conditions de rêve sur papier, on nous avait dit vous aurez une heure, deux heures, quelque chose comme ça. C'est un homme de 84-85 ans bientôt. Et ben, on a eu finalement toute l'après-midi dans un lieu exceptionnel, lieu qui est au centre de, à la fois de l'exposition dont je parlais, mais d'un grand livre sur l'arrivée du printemps en Normandie. Il a peint véritablement pendant un an les quatre saisons, jour, nuit, les mêmes arbres, la même rivière, la même maison. Et quand on entre là avec Pierre-Yves et Jean-Marie, lorsque la grande porte de bois s'ouvre, on entre dans un décor de rêve. En fait, on entre dans un tableau ou dans une exposition, puisqu'au fond, parfois, quand vous voyez un tableau de, je sais pas, la Tour Eiffel ou la Grand Place ou la cathédrale de Rouen, vous connaissez peut-être ces lieux physiquement, et puis ensuite, vous voyez ce que les peintres en ont fait. Ici, c'est l'inverse. On a découvert la réalité après l'imaginaire, et ce lieu est juste fantastique. C'est comme si on entrait un petit peu dans le manoir de Xanadu dans Citizen Kane, ou le Cinecittà. C'est comme si Fellini vous disait la nuit, je vais vous faire rentrer, mais attention sur la pointe des pieds. C'était un rêve éveillé, et l'homme, c'est un vieux dandy, il a toujours été dandy, c'est un anticonformiste, il est assez délicieux, un peu espiègle, il s'est prêté avec docilité, en fumant comme un trou, on peut le dire, il fume énormément. Alors c'est inattendu, parce que on rencontre Hockney, on pense qu'on va parler forcément beaucoup de peinture, des quatre coins du monde où il a travaillé. Il est parti de Bradford, justement ses racines, pour aller ensuite vers la Normandie en fin de sa vie, où il veut rester. Mais il est passé par Londres, par New York, par Los Angeles. New York, pour lui, c'est la ville de la nuit. Los Angeles, c'est la ville du jour. Il garde une sorte de bonhomie, et le fil rouge étonnant, c'est que c'est la cigarette. Il nous a parlé énormément du tabac. C'est comme si c'était son besoin de dire sa contestation par rapport à l'époque, de dire qu'il a aussi quitté Los Angeles parce qu'à une époque, dans les années 90, on ne pouvait plus y fumer dans les restaurants. Il a dit, bon, moi, ça m'emmerde, je pars vers un lieu plus civilisé, entre guillemets. On a parlé de tout ça, des origines dans le Yorkshire, du besoin de partir, du besoin aussi de revenir aux sources dans le Yorkshire, précisément, et puis aujourd'hui, en Normandie.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 7h.
En attendant, abonnez-vous, partagez-nous.
Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi.